Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons ouvert nos Bibles au livre de Job. Et c'est ce que nous ferons également ce matin. Et en plus, nous le ferons sur les mêmes passages que nous allons relire maintenant. Mais c'est des passages tellement, si on peut dire, presque étranges dans la Bible, que vraiment, je pense que cette lecture nous sera bénéfique. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Job, au chapitre 1. Et je vais commencer ma lecture au verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. » Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Et suite à cela, dans le passage que je vais sauter, hein, pratiquement simultanément, en raison de deux attaques de deux peuples différents, et en raison également de deux catastrophes naturelles, la foudre et une tornade, tout cela s'abat sur les enfants de Job, sur ses serviteurs et sur ses troupeaux. Et Job perd, au travers de cela, ses 10 enfants, la plupart de ses serviteurs et tout ce qui faisait sa richesse. On pourrait dire que c'est une véritable loi des séries, des choses qui ont très peu de probabilité de se produisent en même temps sur la même personne. Et pourtant, Job continue à se confier en Dieu. Au verset 21, Job dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a tout perdu, sauf une chose, sa santé qu'il ne va pas conserver longtemps. Je continue ma lecture au chapitre 2 et au verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. » Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre, signe de deuil pour l'époque. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas le mal aussi ?» Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Malgré son malheur, Job est resté attaché à Dieu. Satan n'est pas parvenu à éloigner Job de Dieu. Le livre de Job est un livre très riche, mais aussi un livre qui peut s'avérer parfois très déconcertant. Alors je vais vous partager mon expérience personnelle avec le livre de Job. Après ma conversion, j'étais un assoiffé de la parole de Dieu. cette parole de Dieu qui me révélait qui était Dieu, comment il agissait et comment il intervenait dans notre monde. Alors je lisais les livres bibliques les uns après les autres, des livres donc que je ne connaissais pas du tout, hein, je viens d'un milieu où je ne m'étais jamais penché sur la Bible. Et puis au travers de tout cela, je cherchais à comprendre et à intégrer tout ce que je comprenais sur Dieu et sur sa façon d'agir. Et puis, je lisais tous les livres, et puis je suis arrivé au livre de Job. Et là, j'ai commencé sa lecture, et là, enfin, j'ai découvert un livre qui répondait à plusieurs de mes questions. Des questions qui, jusque-là, étaient restées sans réponse, et des questions que la plupart d'entre nous, nous nous posons. Et entre autres, celle-ci, pour quelles raisons certains connaissent la souffrance, la maladie, le malheur. Nous sommes nombreux à nous poser ces questions parce que nous avons de la difficulté à concevoir comment un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est bon, comment un Dieu tel que lui peut permettre que le malheur frappe des gens qui nous semblent innocents. Comment Dieu peut-il permettre tout cela? Et dans le livre de Job, je trouvais ces réponses. Parce qu'autour de Job, qui souffre, sont venus trois de ses amis. Ils sont venus l'entourer, le soutenir dans ce moment d'épreuve. Et les trois amis de Job ont analysé, ils ont posé des questions, ils ont cherché à comprendre. Ils ont analysé ce qui arrivait à Job. Et ils ont expliqué de façon très pertinente, très convaincante, pourquoi Job connaissait tous ses malheurs. Pourquoi Job avait tout perdu et pourquoi il passait par autant de souffrances. Moi, grâce à ces explications, j'avais enfin trouvé les réponses qui me disaient donc pourquoi certains souffraient. Et qu'un méchant souffre, qu'un quelqu'un qui fait le mal souffre, ça on arrive à le concevoir. Dieu le frappe. Et que quelqu'un qui semble innocent, en tout cas dont les malheurs n'ont rien à voir avec son attitude, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Et dans la Bible, je trouvais cela. C'est formidable. Donc moi, jeune converti, la Bible avait vraiment réponse à tout. Du moins, c'est ce que j'ai cru, parce que j'ai continué ma lecture et je suis arrivé au 32e chapitre de Job. Alors, qu'est-ce qui se passe au 32e chapitre de Job? C'est que Job a un quatrième ami qui jusque-là était resté silencieux. Ou est-ce qu'il est arrivé après? On n'en sait rien. Mais en tout cas, le quatrième ami de Job commence à parler. Et lui, il a l'air de sous-entendre que ce qu'ont dit ses trois amis, ça ne tient pas la route. Il a l'air de sous-entendre que leurs explications sont des explications fausses, qu'ils ne parlent pas de Dieu correctement. Donc là, le doute commençait à s'insérer dans mon esprit. Et puis, je suis arrivé là au 42e chapitre de Job. Alors, le 42e chapitre, c'est le dernier. Et là, mes doutes ont été confirmés et mes certitudes toutes neuves sur pourquoi Dieu permet le mal se sont effondrées. Parce que dans les toutes dernières lignes du livre de Job, c'est Dieu qui parle. Et Dieu condamne les trois amis de Job. Il les condamne parce que dans leur désir sincère d'expliquer pourquoi un Dieu juste, bon et tout-puissant permettait le malheur, et bien pour faire cela, ils ont menti sur Dieu. Ils ont inventé des théories qui, moi, me semblaient, mais elle correspondait exactement à mes propres théories, j'en avais la confirmation. Sauf que Dieu dit qu'ils ont mal parlé de Dieu. Que pour justifier Dieu, ils ont mal parlé de Dieu. Ce qu'ils ont dit est faux. Pourtant, moi, leurs explications m'avaient paru tellement justes. Leurs explications correspondaient tellement exactement à ce que j'avais envie et ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin de ces explications, je pensais les avoir trouvées, mais non, le livre de Job démonte une à une toutes les explications logiques, simplistes, légalistes, au travers desquelles nous essayons parfois d'expliquer les causes du mal et de la souffrance. Le livre de Job ne donne pas d'explications sur l'origine du mal ou sur les causes du mal. Mais par contre, le livre de Job dénonce, montre qu'elles sont fausses, nos propres explications pour essayer de justifier la nature du malheur et du mal. Alors du coup, quand vous découvrez ça à la fin, et à l'époque j'avais pas mal de temps, et j'essayais souvent de mémoriser des textes bibliques. Et j'avais mémorisé un certain nombre de discours de Job. Et pendant des années, je n'ai plus osé mémoriser quoi que ce soit qui venait du livre de Job. Parce que j'avais découvert que dans tout ce qui est écrit, il y a des choses que Dieu disait, mais non, attention, ça c'est faux. Oui, ça a bien été dit, ça figure dans la Bible, ça a bien été dit par les amis de Job. Mais c'est faux. Alors, avec le temps qui passe, je me suis réapproprié, je me suis rapproché du texte de Job, et que je trouve maintenant un texte vraiment formidable, un texte qui nous parle de la sagesse de Dieu, et aussi un texte, et c'est l'objet de la prédication de ce matin et de celle de la semaine dernière, un texte qui nous parle d'un grand combat, d'un combat que Dieu et Satan se livrent dès l'origine de la création de l'humanité. Alors, peut-être avant, c'est possible, mais en tout cas, la Bible nous montre que dès l'origine de l'humanité, Dieu et Satan se livrent un grand combat. Nous avons vu la semaine dernière également que ce combat de Satan contre Dieu passe par nous. Et si jamais ce combat passe par nous, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui nous met, nous en tant qu'enfants de Dieu, qui nous met en première ligne du combat. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exposés par Dieu dans la lumière de ce monde de ténèbres. Nous sommes exposés en première ligne, nous sommes exposés dans la ligne de mire de Satan. C'était le premier point la semaine dernière. En tant que chrétien, je suis en première ligne du plus grand des combats, celui que Dieu mène contre Satan. Nous avons vu également que la nature de ce combat dans lequel nous sommes engagés, c'est de demeurer attaché à Dieu. De demeurer attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Donc c'était notre deuxième point. Le grand combat que je dois gagner, c'est celui de demeurer attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Nous poursuivons donc la méditation que nous avons commencée la semaine dernière et dont le thème est « Je suis engagé ». Voilà, je suis engagé dans le plus grand des combats. Rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. L'enjeu du combat dans lequel Dieu lui-même nous a engagés, c'est de demeurer attaché à lui, quoi qu'il arrive. Pas seulement dans les bons jours, pas seulement tant que nous nous sentons bénis par Dieu. C'est facile de rester attaché à Dieu tant qu'on se sent béni par Dieu. L'enjeu du combat, c'est de demeurer attaché à Dieu, quoi qu'il arrive, même dans les mauvais jours. Parce que la réalité de mon attachement à Dieu se manifeste, se révèle justement lorsque un certain nombre de choses menacent de m'éloigner de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît qu'un lien est réel ou qu'un lien est solide ? C'est justement lorsque ce lien est éprouvé. C'est lorsque l'on tire sur ce lien que l'on peut savoir si ce lien est réel et si ce lien est solide. Est-ce que je suis attaché à Dieu par amour pour Dieu, ou bien est-ce que je m'approche de Dieu, est-ce que je me rapproche de Dieu seulement tant qu'il me donne ce que mon cœur désire ? La réalité de mon attachement à Dieu se manifeste lorsque des choses essayent de m'en détacher. Mon attachement à Dieu doit résister, tenir quoi qu'il arrive. Job, lui, a tout perdu, mais il est resté attaché à Dieu. Il était victorieux dans son combat. Alors, à la fin du livre de Job, il nous est révélé que Dieu a accordé à Job le double de tous les biens qu'il avait perdus. Et que la fin de Job, la fin de la vie de Job a été heureuse. Alors là, on pourrait aussi se dire, ben voilà, quoi, on tient pendant un moment, et puis après, à nouveau, jackpot, Dieu nous bénit. Je pense que Dieu est un Dieu qui nous bénit. Mais nous avons également dans la Bible d'autres exemples, et je pense en particulier au nombre de passages de la Bible où il est mentionné que les prophètes, ceux que Dieu avait envoyés auprès des gens pour partager un message qui venait de Dieu, le nombre de prophètes consacrés au Seigneur qui ont tout perdu. Et ils ont même fini par perdre leur vie. Donc ce n'est pas de Job, on ne peut pas non plus tirer l'exemple qu'on tient un moment et après tout va bien. Dans la Bible, il est question d'un certain nombre de serviteurs du Seigneur, de gens proches du Seigneur, qui ont tout perdu, même la vie. Mais ce que nous dit la Bible, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur combat, parce que jusqu'au bout, ils sont restés attachés à Dieu. Notre victoire dans notre combat, la réalité de notre attachement à Dieu, ne se mesure pas aux bénédictions que Dieu nous accorde, ou à celles qu'il nous accordera plus tard. Ce n'est pas à cela que l'on mesure notre intimité, notre attachement avec Dieu. Notre attachement avec Dieu, notre intimité avec Dieu, la réalité de notre foi avec Dieu, se manifeste lorsque nous restons attachés à Dieu, pour Dieu, pas pour ce qu'il nous donne, pour Dieu, dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Et nous avons une espérance. Mais notre espérance, mon espérance en Christ, n'est pas de connaître une vie facile. Alors bien sûr, je vous dis franchement, moi, je préférerais cela. Si j'ai le choix entre une vie facile et une vie difficile, je ne suis pas maso en tout cas. Je préfère une vie facile où tout va bien. Mais c'est ma préférence, mais je n'ai aucune assurance de cela. Dieu ne me promet pas d'avoir une vie facile dès à présent. Ce n'est pas pour rien dans la Bible qu'il nous est dit que nous devrons porter notre croix et que nous sommes exhortés à combattre, la notion de combat, ce n'est pas quelque chose de facile, à combattre contre le péché de toutes nos forces. Dieu ne nous promet pas une vie facile dès à présent. En revanche, si j'ai accepté Christ dans mon cœur, j'ai une assurance qu'en Christ, j'ai hérité de la vie éternelle. Mon assurance, c'est qu'un jour, pas maintenant, mais un jour, là, oui, j'accéderai à l'éternité, pour l'éternité, à une vie où enfin je vivrai une vie de paix, de joie, de communion à la fois avec Dieu et avec mes frères et sœurs. Mais tant que ce jour n'est pas arrivé, mon combat, car c'en est un, c'est de demeurer attaché à Christ, quoi qu'il arrive. Parce que je suis en paix avec Dieu, c'est un peu le paradoxe, parce que je suis en paix avec Dieu, alors je suis en guerre contre Satan et contre le péché. Et cette guerre n'est pas une guerre facile. Elle n'est pas facile, mais par contre, c'est une guerre, c'est un combat qui est juste. C'est une cause qui est noble. Et ça, ça vaut la peine de la vivre. C'est-à-dire que nous sommes engagés dans un combat qui est noble, juste, bon. Au verset 1:8 et 2:3 de Job, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur, c'est lorsque notre attachement à Dieu devient remarquable que nous glorifions Dieu. » Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse un certain nombre de choses pour savoir la réalité de notre cœur. Mais par contre, c'est lorsque notre attachement à Dieu devient manifeste, devient visible, que notre Dieu est glorifié au travers du regard des autres. Du regard aussi bien de ceux qui nous entourent dans ce monde visible, mais aussi au travers du regard du monde invisible. Notre Dieu se glorifie au travers de notre attachement avec lui. Et n'est-ce pas ce que nous voulons, glorifier notre Dieu? Glorifier le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a sauvés. Glorifier notre Dieu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Glorifier notre Dieu est quelque chose qui correspond aussi à ce qui est dans le fond de notre cœur. Alors, il reste à se poser une question. Comment se manifeste notre attachement à Dieu, cet attachement par lequel Dieu se glorifie? C'est notre troisième point. Mon attachement à Dieu se manifeste par mon intimité avec Dieu et par mon refus de péché. On s'imagine parfois que notre attachement à Dieu consiste à accepter toute chose sans rien dire à Dieu, sans broncher. On s'imagine des fois que Dieu nous demande d'encaisser les coups, de supporter les malheurs sans élever la voix, sans rien lui dire. Et il y a même parfois des personnes qui vont au-delà de ne rien dire. Non seulement elles ne se contentent pas de rien dire, mais elles disent également merci à Dieu pour tout ce qui leur arrive, même les pires choses. Merci Seigneur pour l'incendie ou le vol de ma voiture. Merci Seigneur pour la maladie. Merci Seigneur pour la mort, pour le viol, pour l'injustice. Je ne dis pas que ces personnes ont tort de remercier Dieu pour cela, si jamais à une condition, si jamais elles le pensent sincèrement. Si dans leur relation à Dieu, elles perçoivent ce que moi extérieurement je considère comme un malheur, comme étant une manifestation de la grâce de Dieu pour eux, alors qu'elles l'expriment au Seigneur. Mais si jamais ce n'est pas de la gratitude qu'il y a dans leur cœur, si jamais elles ne ressentent pas de la gratitude pour le malheur qui les frappe, alors qu'elles ne disent pas merci à Dieu en s'imaginant que c'est un acte d'adoration et qu'au travers de cela, le Seigneur est réjoui. Si jamais nous faisons cela, nous tombons dans une sorte de déni ou d'hypocrisie religieuse qui va avoir même, je pense, l'effet inverse de ce qui est dans notre cœur. On fait cela en espérant « oui, je me rapproche de Dieu comme cela ». Mais en fait, si dans notre cœur, ça ne correspond pas à ce qu'on éprouve, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on refuse, lorsqu'on étouffe un certain nombre d'émotions dans notre cœur, lorsque, pour calmer la souffrance, on dit « non, non, merci malgré tout Seigneur pour cela », on finit par anesthésier notre cœur. Et lorsqu'on met un couvercle sur notre souffrance, on met également un couvercle sur notre amour. Des fois, on est vraiment très mal, on souffre, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça s'est passé. Notre souffrance est souvent encore amplifiée parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Et parfois, on trouve dans la Bible, on entend dire, mais un chrétien doit toujours être joyeux. Ah, puis on a envie, nous, d'être un bon chrétien. Alors, plutôt que de laisser notre souffrance s'exprimer, eh bien, on va quelque part s'illusionner en disant « mais c'est pas grave, non, je souffre pas, merci Seigneur ». Mais en faisant semblant de ne pas être triste, en cherchant à être toujours joyeux, à être quelque part un chrétien très spirituel, nous étouffons les cris réels de notre cœur. Et en fermant ou en empêchant la souffrance de notre cœur, on se coupe également de Dieu. Nous sommes coupés de notre relation avec Dieu lorsque nous nions en nous ou lorsque nous faisons semblant de ne pas voir en nous nos propres souffrances. Mais est-ce cela que notre Dieu recherche? Notre Dieu recherche de véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu veut que notre cœur vive et batte pour lui. Dieu ne veut pas que notre cœur soit étouffé en raison de notre refus de ressentir les choses telles qu'elles se trouvent dans notre cœur. Refuser de reconnaître notre souffrance devant Dieu, c'est aussi renoncer à vivre notre souffrance en intimité avec Dieu. C'est se détacher un peu, et contre notre volonté, hein, je dis, ce n'est pas une démarche volontaire, mais contre notre volonté, nous nous éloignons au travers de cela de notre Dieu. Du Dieu que pourtant nous voulons aimer, du Dieu que nous le voulons adorer. Job a connu le malheur et la souffrance alors qu'il ne s'y attendait pas. Job était vraiment un homme béni. En Job 30, 26, Job dit « J'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Je suis sans arrêt profondément bouleversé. Les jours de souffrance m'ont surpris. » Mais Job n'a pas anesthésié son cœur devant Dieu Au contraire, il s'est ouvert de sa souffrance à Dieu. Job ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas en sa faveur, mais Job n'étouffe pas la souffrance de son cœur. Il partage sa souffrance en s'ouvrant à Dieu. Au verset 20, toujours au chapitre 30, Job dit « Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu te bornes à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. » Je ne sais pas si plusieurs d'entre nous ont osé parler avec autant de sincérité à Dieu, mais en tout cas, Job l'a fait. Nous croyons parfois que nous allons offenser Dieu si jamais nous osons lui dire réellement ce que nous pensons ou ressentons. Mais c'est le contraire. Dieu aspire que nous lui ouvrions notre cœur. Pas parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur mieux que nous-mêmes. Dieu aspire à ce que nous lui ouvrions notre cœur parce qu'il aimerait que nous vivions avec lui une véritable intimité, une vraie proximité avec lui. Or, nous pouvons ouvrir nos cœurs à Dieu. Il est prêt à le recevoir et il désire nous accompagner dans notre souffrance. Si nous voulons rester attachés à Dieu, nous devons déjà maintenir notre attachement à Dieu, notre communion avec Dieu, quoi qu'il arrive. Nous devons nous libérer de cette croyance que pour être spirituel, nous devons étouffer notre cœur lorsqu'il souffre. Dieu ne veut pas que nous étouffions notre cœur, Dieu veut au contraire que nous lui ouvrions notre cœur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Relisons Job. J'espère que vous relirez Job dans son intégralité. Relisons les Lamentations de Jérémie. C'est pas pour rien que ce livre s'appelle les Lamentations. Et Jérémie, il va franco, si on peut dire, avec Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. Et les psaumes de David. David avait un qualificatif particulier. Il appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais au travers des psaumes qui figurent dans notre Bible, David a exprimé bien sûr la joie, l'espérance, la victoire lorsque c'était le cas. Mais il a également exprimé sa souffrance, son incompréhension, son désarroi. Nous avons cette liberté devant Dieu et même Dieu a fait en sorte que ces textes-là figurent dans nos Bibles. Ces textes auraient pu se perdre. Dieu a fait en sorte que ces textes figurent dans nos Bibles parce que nous devons savoir que nous pouvons ouvrir nos cœurs à Dieu. Lorsque rien ne va plus, lorsque les choses n'évoluent pas comme je l'espérais, je ne dois pas me couper de Dieu en anesthésiant mon cœur, mais je dois me tourner vers lui. Je peux lui dire ce que je ressens, je peux lui faire part de ma de mon désespoir, de mon incompréhension, de ma déception et même de ma colère. Ce qui compte, et vous voyez la différence aussi entre le discours de Job et de ses amis, c'est que Job a fait part de sa colère. Il a dit comment lui percevait les autres, enfin se percevait ou percevait Dieu dans un Dieu qui ne répond pas, un Dieu qui reste silencieux. Mais pourquoi ? Les amis de Job, eux, ont dit des choses sur Dieu. Dieu fait ça parce que telle chose. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, il ne s'agit pas de dire « Mais Dieu, tu es injuste, tu es si », c'est on peut lui ouvrir notre cœur en lui faisant part. « Tu me sembles injuste, je ne comprends pas, je souffre. Pourquoi ?» Ça, ce n'est pas nous éloigner de Dieu, c'est au contraire nous rapprocher de Dieu dans une vraie relation, dans une relation d'intimité. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas que je comprenne tout ce qu'il fait. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que je continue, quoi qu'il arrive, à me tourner vers lui et à rester attaché à lui, même si je ne comprends pas tout. Et en plus, nous devons bien réaliser que nous ne comprendrons jamais tout ce que Dieu fait, Parce que le combat que Dieu mène est bien plus large, bien plus complexe que celui de notre propre vie. Dieu est engagé dans un combat universel. Dieu accomplit un plan qu'il a élaboré avant même la création du monde. Un plan qui concerne et qui implique des millions, des milliards, je ne sais pas, d'individus. Je suis engagé dans le plus grand des combats, un combat le plus grand de tous les combats de l'histoire, un combat qui me dépasse. Mais moi, mon rôle dans ce combat, mon propre rôle, mon combat, ma responsabilité personnelle dans ce combat est de rester attaché à Dieu, de veiller à cultiver et à maintenir mon intimité avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu me permet aussi de me rappeler que quelle que soit ma situation, en Dieu, j'ai une espérance qui est certaine. Peut-être que ma vie présente ne s'arrangera pas, même si je suis convaincu qu'en règle générale, Dieu intervient dans les cœurs et que Dieu transforme les situations qui peuvent être dramatiques. Mais la persécution existe, c'est une réalité hein, dans le monde chrétien. Et plus l'Église semble dynamique, plus la persécution semble également à la hauteur de cette Église dynamique. Donc peut-être que ma vie présente ne s'arrangera pas. Mais mon espérance en Christ, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive même maintenant, parce que Dieu m'aime et que je bénéficie de sa grâce, j'ai hérité de la vie éternelle. Et ma vie future sera une vie où je connaîtrai enfin le bonheur. Le bonheur d'une vie de paix, d'amour, de justice, de communion parfaite. Une vie où le péché n'existera plus. Or, en ce moment, nous sommes en guerre contre les péchés. Mon espérance est de connaître un jour une vie où le péché n'existera plus. Donc je ne serai plus en guerre, je serai en paix avec mon Créateur, avec mes frères et sœurs. C'est cela mon espérance, c'était également cette espérance qui était celle de Job. Sa vie était tellement difficile, tout semblait tellement aller contre lui, que Job a fini par croire qu'il allait mourir bientôt. Alors, le texte biblique nous montre que non, mais lui, dans son malheur, était convaincu qu'il allait mourir, c'était trop dur. Et sa mort même lui semblait préférable, plutôt que continuer cette vie de malheur et de souffrance. Nous pouvons avoir perdu espoir en cette vie, mais nous devons conserver notre espérance éternelle. Nous pouvons rester attachés à Dieu, même si ce qu'il fait ou ce qu'il permet nous semble incompréhensible, et c'est ce que Job a fait en 19:25. Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. » Job ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il sait que même au-delà de sa mort, il pourra contempler Dieu. Son Rédempteur, celui qui le sauve, et ce qui est en plus un texte extraordinaire, hein, c'est que ce texte a été écrit bien avant la naissance de Jésus. Mais déjà, Job, dans ce qu'il connaissait de Dieu, savait qu'un jour, le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui payerait à sa place, celui qui payerait le prix de la rançon, que ce Rédempteur était vivant. Nous, nous connaissons son nom, c'est Jésus-Christ. Mon combat pour rester attaché à Dieu est de conserver mon espérance éternelle. Mais mon combat pour rester attaché à Dieu est aussi de faire le choix de la confiance à Dieu. Je peux faire confiance à Dieu parce que mon Dieu est digne de confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Parce que va-t-il se passer si je ne fais pas confiance à Dieu? Si je doute que Dieu est digne de confiance, alors je vais faire le choix de me confier en autre chose que Dieu. Et je vais ainsi me détourner, m'éloigner de Dieu. Alors, c'est ce que nous avions vu il y a 3 semaines, c'est votre d'une prédication dont le titre était « Lorsque je doute de la bonté de mon Père céleste, à quoi puis-je me raccrocher pour ne pas tomber dans le péché ?» Le manque de confiance en Dieu est le premier pas vers le péché. Je dois, dans mon combat, pour rester attaché à Dieu, je dois choisir de lui faire confiance. Des fois, ce n'est pas facile. Hein. Si vous pouvez, quand vous sautez d'un avion avec un parachute, il y a deux façons de sauter. Vous pouvez sauter sans peur, tant mieux pour vous. Vous pouvez aussi sauter la peur au ventre. Mais vous pouvez le faire, pourquoi ? Parce que vous avez confiance, malgré votre peur, vous avez confiance que votre parachute s'ouvrira. La confiance est aussi une question de choix. Nous devons faire le choix de la confiance vis-à-vis de Dieu. Et bien sûr, mon attachement à Dieu se manifeste aussi lorsque je choisis de faire, de suivre, d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je choisis de faire la volonté de Dieu plutôt que de choisir de pécher, je manifeste mon attachement à Dieu. Mon attachement à Dieu se manifeste donc par mon intimité avec Dieu. Je peux ouvrir mon cœur à Dieu. Mon espérance en Dieu. Je sais qu'un jour, je serai sauvé par Dieu. Ma confiance en Dieu. Je sais que Dieu est digne de confiance. Et mon accomplissement de la volonté de Dieu, qui peut aussi se dire par mon refus de péché. Le combat dans lequel je suis engagé touche donc tous les domaines de ma vie. Parce que quelle que soit ma situation, je dois maintenir mon intimité avec Dieu, espérer en lui, avoir confiance en lui et chercher à faire sa volonté. Tous les domaines de ma vie. Pas seulement lorsque je suis vu par les autres, pas seulement lorsque je viens à l'église, lorsque je suis au travail ou en famille. Tous les domaines de ma vie, même lorsque je suis tout seul, dans ma voiture, tout seul, dans ma chambre. Tous les domaines de notre vie. Et quand on considère cela, cela peut nous sembler bien trop lourd à porter. Et je pense que ça le serait si jamais nous étions engagés tout seuls dans ce combat. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas seul, Christ est en moi et Dieu veille sur moi. Ce sera notre quatrième et dernier point. Je dois tenir ferme et rester attaché à Dieu, car je suis en Christ et Dieu veille sur moi. Je dois tenir ferme et rester attaché à Dieu. Je le dois parce qu'il n'y a pas de plus grand combat que celui-ci. Alors, dans la vie, nous perdons tous des combats. Il y a toujours, un jour ou l'autre, il y a toujours des combats que nous finissons par perdre. Mais s'il y a un seul combat, un seul que je ne dois pas perdre, c'est celui de demeurer attaché à Christ. Je dois déjà, une première fois, m'attacher à Christ. Ma vie éternelle en dépend. Si je n'ai pas accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, si je ne me suis pas réconcilié avec Dieu, si je ne me suis pas attaché à lui, je vais tout perdre. Ma vie n'aura servi à rien. Au lieu d'hériter de la vie éternelle, je vais recevoir ce que je mérite. Si je ne suis pas accroché, attaché à Christ, je vais recevoir ce que je mérite, la mort éternelle. Je dois impérativement gagner déjà ce premier combat, celui de m'attacher à Christ, que Jésus devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Et une fois que j'ai été réconcilié avec Dieu, je dois demeurer attaché à lui. Alors, pas parce que je risque de perdre mon salut. En tout cas, c'est ma conviction. Dans le monde évangélique, c'est quelque chose que certains peuvent concevoir différemment. Moi, ma compréhension de la Bible est que si j'ai été sauvé par Jésus une fois, je le serai toujours. Parce que mon salut dépend du sacrifice de Jésus et non pas de mes œuvres. Donc nous devons demeurer attachés à Christ, pas parce que nous risquons de perdre notre salut, mais parce que des centaines d'autres combats dépendent de celui-ci. C'est au travers de mon attachement à Christ que je peux porter du fruit. C'est au travers de mon attachement à lui que Christ renouvelle mes forces et qu'il transforme mon cœur. En Jean 15, 5, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je veux mieux aimer mon conjoint, si je veux mieux aimer mes enfants, si je veux mieux aimer mon prochain, je dois demeurer attaché à Christ. C'est le plus grand de tous les combats. Je dois donc demeurer à Christ, quel qu'en soit le prix, et ce combat a même plus de valeur que ma propre vie. Mieux vaut perdre la vie que de perdre mon attachement à Christ. Je dois demeurer à Christ, non seulement je le dois, mais je peux le faire. Je peux le faire, car l'engagement de Dieu envers moi, l'engagement du Dieu qui lui-même m'a engagé dans ce combat, c'est qu'aucune puissance, pas même Satan, ne pourra me détacher de Dieu contre ma volonté. En Jean 10, 27, Jésus dit, en parlant de ceux qui le suivent, « Personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Personne ne pourra m'arracher à la main de mon Dieu. Alors vais-je moi-même me détacher de mon Père céleste ? Certainement pas. Je peux également demeurer attaché à Christ, car Dieu veille sur moi, et Dieu qui me connaît ne permettra jamais qu'il m'arrive une épreuve plus grande que ce que je pourrais supporter. Certaines épreuves de la vie font que nous pouvons être tentés de nous éloigner de Dieu. Nous sommes tentés, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. En 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Cela aussi avait été l'objet d'une prédication. Dieu veille sur nous et Dieu ne permettra jamais qu'une tentation m'empêche de demeurer attaché à lui. Alors vais-je moi-même céder à la tentation et m'éloigner de Dieu ? C'est une question qu'on doit se poser. Vais-je moi-même céder à la tentation ? Ou vais-je demeurer attaché à Christ ? C'est parfois dur de rester attaché à Christ, de rester attaché à Dieu. Mais cela en vaut la peine, parce que chaque tentative de Satan de nous détacher de Dieu peut renforcer encore plus notre attachement à Dieu. Si jamais nous détachons pas nous-mêmes, nos liens avec le Seigneur seront encore plus forts qu'avant. Nous serons même encouragés dans notre marche avec Dieu en réalisant à quel point nous sommes attachés à Dieu. Alors, dans les nouvelles écoles d'escalade, vous savez, une des appréhensions des grimpeurs, c'est la chute, ce qui est normal. Alors, ce qu'on fait maintenant, en tout cas ce que certaines écoles font, c'est que, avant même de vous apprendre à grimper, on va vous apprendre à tomber. On va vous amener à un endroit, alors c'est proportionnel à votre appréhension, à votre âge, on va vous amener à un endroit, et on va vous dire, voilà, tu es accroché, et bien saute. Alors bon, tout dépend du degré de confiance que vous avez dans le matériel. Mais en sautant, les grimpeurs réalisent la réalité et la solidité de leur lien. Et de prendre conscience que ce lien... Alors, avant de tomber, moi je fais partie des anciennes écoles d'escalade, c'est que on grimpe et puis on espère que ça tient. Mais quand vous en avez la preuve, c'est mieux. Je vous dis franchement, ça vous libère d'un certain nombre de choses. Mais dans notre marche avec Dieu, lorsque nous réalisons... Nous avons failli nous éloigner de Dieu et nous réalisons, mais non, en fait, si on m'avait dit il y a 5 ans, ou même hier, que je resterais attaché à Dieu avec ce qui m'arrive, c'est quelque chose qui nous encourage. Parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose dans notre relation avec Dieu qui est plus fort que simplement ce qui passe par notre tête. On prend conscience de la réalité du lien qui nous relie à Dieu. Satan n'aime pas d'ailleurs être confronté à ses échecs, n'aime pas constater la réalité de nos liens avec Dieu. Alors c'est peut-être pour cela, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais je me demande si ce n'est pas pour cela qu'après deux tentatives ratées de Satan pour éloigner Job de Dieu, on n'entend plus parler de Satan. À partir du deuxième chapitre, pas une seule mention. Satan n'aime pas être confronté à ses propres défaites. D'ailleurs, il est écrit en Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Satan n'aime pas être confronté à ses propres échecs. Job est resté attaché à Dieu, même lorsqu'il a tout perdu. Même lorsqu'il a perdu tout ce qui était précieux à ses yeux. Tu peux couper. Voilà. Juste fermer la trappe. Merci. Job est resté attaché à Dieu malgré toutes les difficultés, tout ce qu'il a pu subir. Et nous, y a-t-il des domaines où nous nous sommes éloignés de Dieu parce que notre vie n'a pas évolué comme nous l'espérions, parce que nous n'avons pas reçu ce que nous voulions? Y a-t-il des choses où nous éprouvons de la difficulté à résister au piège du diable, à résister au péché? Y a-t-il des tentations qui, si nous leur cédons, vont nous éloigner de Dieu? Quels sont les combats difficiles pour nous? Quels sont les combats difficiles pour moi? Est-ce le manque de confiance en Dieu? Je doute que Dieu m'aime vraiment, donc je vais chercher ailleurs quelque chose qui me rassure. Est-ce l'orgueil? Je ne m'estime pas assez valorisé, alors je suis tenté de rabaisser les autres par mes paroles ou par mon comportement. Je me place au-dessus d'eux. Est-ce la sexualité? Ma sexualité n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, alors je suis tenter de trouver ma satisfaction personnelle dans la pornographie ou dans l'adultère. Est-ce les biens matériels? J'estime que je n'ai pas assez, je voudrais plus. Alors je suis tenté de voler, de tricher pour obtenir ce que je veux. Est-ce la peur du lendemain? Je redoute ce qui m'arrivera demain. Alors je suis tenté de me rassurer par ce que je trouve, l'astrologie, la magie, la superstition ou ma confiance placée dans le matériel. Il y a bien des choses qui peuvent m'éloigner de Dieu. Mais moi, quel est le combat? Quels sont les combats qui risquent de m'éloigner de Dieu? Je vous invite maintenant à un temps silencieux, que chacun puisse passer un temps devant Dieu, que chacun puisse lui ouvrir son cœur. Nous demandions à notre Dieu de nous montrer un ou deux domaines ou plus de notre vie où nous risquons de nous détacher de lui. Que nous puissions prendre la décision devant notre Dieu de revenir à Dieu, de manifester notre attachement à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Je vous invite maintenant à ce moment que chacun se place devant Dieu et je conclurai ce moment par la prière.